Gaston de Pavlovski, le monstre. Je ne puis comprendre le mal que l'on dit fort couramment des chirurgiens et des médecins. Ils font aujourd'hui des merveilles, mais gardent un tel tact et une telle délicatesse dans toutes leurs actions que chacun l'ignore le plus souvent. Tous les journaux ont dernièrement parlé de ce grand praticien qui laissait habituellement ses instruments les plus coûteux dans le ventre de son malade pour leur éviter des frais inutiles lors d'une seconde opération. Il y joignait même volontiers quelques serviettes, une carafe, une petite table portative, et tout se trouvait à la portée de la main si par hasard le malade était obligé de recourir pendant un voyage à l'intervention d'un petit chirurgien de province. Pour moi, je me souviens fort bien d'avoir admiré, en son temps, le remarquable désintéressement d'un prince de la science qui, dépassant de beaucoup tout ce qui avait été fait par ses collègues jusqu'à ce jour, n'hésita pas à oublier ses honoraires dans l'estomac d'un client pauvre. Aujourd'hui, je suis encore tout bouleversé par une opération touchant véritablement au miracle que j'ai vu pratiquer sur un enfant nouveau-né et qui demeure, je pense, sans précédent connu dans les annales de la science. Jeudi dernier, au moment précis où j'allais renoncer à tout travail, je suis arrivé chez moi, les yeux égarés, avec des allures de fou, le directeur d'un grand cirque forain que je connais à peine, mais qui m'avait été recommandé plusieurs fois déjà par un ami commun. L'homme tout essoufflé tomba sur une chaise et d'une voix entrecoupée se mit à prononcer des phrases sans suite. « Un mot de vous à vos amis par-dessus et je suis riche pour toujours. « Monsieur, voilà, je vous en prie, vous aurez pitié de moi. Un mot de vous à vos amis, penses-tu, je suis riche pour toujours. Décidez-les, je vous en conjure, à me vendre leur enfant pour le montrer dans mon établissement. C'est une véritable merveille. Jamais je ne retrouverai un pareil phénomène. Vous seul pouvez les décider. Je vous en prie, intercédez pour moi. » L'homme se traînait, suppliant, comme une limace sur le tapis, et je dus prendre des pincettes pour le jeter dehors. Hélas, quelques minutes après, un télégramme me confirmait l'étonnante et incohérente nouvelle. Suzanne accouchée d'un monstre, désespéré, Thomas Pansetu. Madame Pansetu accouchait d'un monstre? Quelle affreuse nouvelle! Je sautais dans un fiacre et quelques minutes après, j'arrivais chez mes amis. Une maison à l'envers, messieurs de la famille, les amis ensuite, une véritable réunion d'enterrement avec la soulageante perspective de la levée du corps en moins. Pansetu, affairé sur une chaise dans son salon, balbutiait des phrases incohérentes. Un monstre vivant, comme à la foire. Cela n'était pas naturel non plus. Ah, bon, mais il saurait tout. Avec les femmes, on voyait parfois les choses, Il exigerait, il interrogerait, etc. Tout cela, pour moi, était fort gênant. Quand j'étais un tout petit garçon, on m'a appris ce qu'il fallait faire et dire au mariage et aux enterrements, mais on n'a pas prévu dans mon éducation les condoléances pour monstres. Véritablement, je ne savais plus quelle contenance garder lorsque le médecin de la famille sortit enfin de la chambre voisine. Je m'élançai vers lui. « Eh bien, docteur !» Dame, me répondit-il, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est un monstre. C'est pas amusant, c'est certain. Il ajouta avec bonhomie, mais moi, n'est-ce pas, je ne travaille pas dans le neuf. faut se résigner, et puis du reste, cet enfant ne pourra pas vivre dans de pareilles conditions. Voyez vous-même. » Il me fit entrer dans la chambre où une sage-femme gardait le petit monstre et se retira discrètement. Une curiosité malsaine me poussa en avant, puis je reculai tout aussitôt, le cœur bouleversé de dégoût. Quelle horreur! Dans un berceau, un petit tas rouge, informe, affreusement constitué contre nature, les bras retournés, attachés aux hanches, la tête au-dessous du ventre, avec un peu de barbe sous les yeux révulsés, une bouche à la cyclope sur le front et s'ouvrant par le haut comme chez les crocodiles, un petit nez en boudin placé sur les épaules, surmonté par deux chapelets d'un gras de saucisse, ressemblant à des jambes. Le tout, et tout cela, criant, hurlant. Véritablement, ce n'était pas gai. Et puis ces choses-là me rendent malade. Un coup de sonnette. « Ah, voilà un grand chirurgien, thératosopathe, qu'on a demandé, » fit la guerre, enfin, sage-femme, en se levant. « Vrai, oh, c'est bien pour la forme de déposer l'argent de M. Pansu, véritablement. Si celui-là, il fait quelque chose, il sera malicieux, celui-là, il sera malin. » « Eh bien oui, sage brave femme, eh bien oui, il fut véritablement malin, celui-là. » Sans le secours de ses instruments, sans l'aide d'aucun interne, le grand praticien s'approcha du berceau, considéra un instant le phénomène et brusquement, le soulevant dans ses bras, le retourna, la tête sur l'oreiller, les pieds à leur place habituelle. Nous nous approchâmes, stupéfaits, et à la place du petit monstre, un enfant du sexe masculin, parfaitement constitué, était couché là, devant nous, et à ses cris succédait enfin un sommeil réparateur. Et cependant qu'un tel prodige nous laissait muets d'admiration, le grand homme haussa un peu les épaules et se contenta de dire en sortant à la sage-femme « Vous auriez pu le tuer, vous. On n'a pas idée non plus de coucher comme ça un nouveau-né dans son berceau, la tête en bas. »